Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Alors que décembre nous attend de pied ferme, alors que la dépression saisonnière bat son plein, alors que dehors il fait moche dedans, il fait beau, il fait chaud et on a des raisons de se réjouir, puisque dans la fournée d'objets culturels qu'on va décortiquer aujourd'hui, il y a de sacrées bonnes choses. Au cours de cette émission, on vous entretiendra du nouvel album d'Étienne Dao, du film Les Garçons et Guillaume à table, de la série Bates Motel et de la BD Les Zombies n'existent pas, mais qui est donc ce on opaque et mystérieux dont je vous parle depuis 30 secondes. Eh bien, il s'agit d'une poignée de journalistes du magazine Focus Vif, la crème de la crème, Nicolas Clément, actif en BD et en ciné, Olivier Van Varenberg, spécialiste des mauvais genres littéraires, et Laurent Oubrex, le chef de nos pages musique. Bonjour les copains.
Bonjour,
bonjour Myriam.
Bonjour Myriam.
Et on ouvre cette émission avec un disque, Les chansons de l'innocence retrouvée, c'est le dernier Dao, un disque qui a notamment fait parler de lui avec sa pochette censurée dans le métro parisien parce qu'on y voit une femme topless à côté du chanteur, caché ce sein qu'il ne saurait voir, donc puisque en fait cette photo ne raconte finalement rien qui pourrait choquer la morale, soit. Les chansons de l'innocence retrouvée signent le retour aux affaires d'un jeune homme moderne qui a influencé des tonnes d'artistes contemporains comme Lescope, hein, évidemment, Aline ou la femme, mais la copine ne vaut jamais vraiment l'original, n'est-ce pas? 17 morceaux sur cet album, en tout cas sur la version que j'ai téléchargée sur iTunes. On entend la participation notamment de Nile Rodgers, de Dominic A et de Debbie Harry notamment. On n'y retrouve selon moi aucun futur classique inoxydable comme Ouverture, Tombée pour la France ou Le premier jour du reste de ta vie, mais une jolie collection de chansons entêtantes avec toujours la voix suave d'Étienne qui agit comme un baume. Parmi les plus efficaces, je citerai évidemment La peau dure et Les chansons de l'innocence retrouvée, qui sont deux bons gros singles. Un beau disque riche qui ne peut pas vraiment déplaire, je crois. Qu'est-ce que tu en as pensé, Laurent ?
T'as complètement résumé ce que j'en pense.
Ah ouais ?
Merci, au revoir.
Voilà, donc je vais m'en aller. Non, c'est un... D'abord, on aime Étienne Dao depuis toujours. Enfin, c'est quelqu'un qui est là, qui a une place vraiment très particulière, qui est extrêmement... populaire et qui en même temps a gardé une distance, un truc qui fait que oui, il a vraiment une place à part, quoi, je trouve, dans la scène française. Ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est qu'il est célébré par des jeunes groupes pour une musique qu'il ne fait plus vraiment aujourd'hui. Oui. Quoi. Il fait une pop très adulte, entre guillemets, avec plein de violons. Alors en effet, c'est très joli. Moi, parfois, ça me tient un peu à distance, mais voilà, il y a toujours une espèce d'orfèvrerie, de vrai talent. Il a quelque chose, il a une tenue, il a... Voilà, et le seul bémol, moi, qui me freine un peu, c'est sur certains textes. Il avait fait ce disque il y a quelques années, 2-3 ans, je pense, sur le poème de Jean Genet,
oui,
qu'on allait à mort.
Avec Jeanne Moreau.
Avec Jeanne Moreau.
La France.
Voilà, et je sais pas si ça a eu un effet sur sa manière d'écrire, mais c'est devenu, sur certaines chansons, en tout cas sur certains morceaux, parfois très... très écrit, très littéraire,
oui,
alors que
vrai.
La pop, finalement, ça doit rester quelque chose d'assez simple. Et ici, il est parfois avec des phrases qui sont à l'écrit peut-être très belles.
Le miel de ton machin, mais... c'était quoi cette histoire?
Ouais, il y en a une. C'est...
Ça m'a pas marqué, ça, le miel de ton machin.
Il y en a une où il dit, c'est dans le malentendu, je crois, il dit, ta souffrance est un miel dont je suis exilé. C'est
exactement.
C'est poétique, et c'est beau. Moi, c'est... Ah oui, tout à fait, c'est complètement poétique, mais
c'est assez
dans la bouche de Dao,
ouais.
c'est, ça commence à devenir, par moments, en plus avec son timbre de voix très feutré comme ça, ça devient, pour moi, mais j'en conviens que c'est extrêmement personnel, voilà, que c'est pas forcément dans cette pose-là, dans cette posture-là, que je le préfère.
Eh bien, je voilà, te rejoins après. Totalement, et notamment à propos de cette phrase et de ce mot, miel.
Et il y en a quelques-uns, comme ça, des sorties. Mais voilà, ça n'empêche que ça reste un super bel album et qu'on est plutôt candidat.
Je te vois opiner du chef, Nicolas.
Oui, je suis assez d'accord. Mais c'est vrai que les textes chez Dao, c'est un peu le nerf de la guerre, je trouve. Moi, c'est la chanson La peau dure avec les rimes en ur.
Ah ouais. Ah, moi, je suis tout client.
J'ai l'impression qu'il a mis tous les mots, à part, je sais pas, crevure et biture, il doit avoir mis tous les mots en ur qui existent dans le dictionnaire, dans son bon Robert.
Mais ça se tient, je trouve.
Voilà.
Ça reste.
Mais il fait souvent le coup hein, avec If, ouais. etc. C'est pas la première fois qu'il fait des choses très répétitives comme ça.
C'est vrai, oui. Mais ça, c'était chez. C'était avec Charlotte Gainsbourg.
Ouais, c'était avec Gainsbourg.
Ouais. Sinon, ouais, les textes très naïfs, très romantiques, très adolescents, malgré effectivement le côté plus écrit peut-être qu'avant. Et donc ce côté un peu naïf, oui, on a l'impression qu'il est toujours un peu avec ses blessures et ses écorchures en hurle d'adolescent. Ça peut être agaçant et en même temps, paradoxalement, c'est ce qui fait le charme de Dao en fait. Je trouve qu'il arrive à renouer, il a, je sais pas, 57 ans, je
ouais,
crois.
Tout à fait.
Ouais, je trouve.
Et il est toujours un peu dans ce sort de truc romantique 19e siècle et en même temps 19 ans aussi, quoi. Enfin, je veux dire, très, très jeune. Au niveau de la musique, moi j'ai trouvé ça assez magnifique, donc c'est vrai que c'est des avalanches de cordes, c'est très anglo-saxon, on pense à Divine Comedy, John Barry, Scott Walker, des trucs comme ça très luxuriants, voire capiteux.
Oh, dis, tu parles comme Isaline. C'est un hommage en son absence.
Oui, bonjour Isaline.
Isaline, si tu nous entends.
Et donc voilà, ouais, ça c'est vraiment très bien. Et paradoxalement, je trouve encore une fois, le sommet du disque pour moi, c'est le morceau écrit par Dominica qui s'appelle En Surface et qui est justement le morceau le moins orchestré, le plus minimaliste.
Mais tu ne trouves pas qu'il singe un peu trop Dominica sur ce morceau?
Oui, oui,
parce que c'est écrit par.
Oui, jusque dans sa façon de chanter, effectivement, c'est vrai. Et en même temps, ça. Je trouve que c'est du Dao, ça s'intègre. C'est un morceau qui aurait pu être sur la musique de Dominica, l'avant-dernier album de Dominica. Et en même temps, quand il, je pense qu'on peut dire qu'il se l'approprie. Et c'est surtout un super beau morceau.
Eh, mais je sais pas trop quoi en penser. J'avais l'impression de voir Dao qui joue à Dominica.
Mais ça, c'est vrai, ouais.
Enfin, forcément, puisque c'est un morceau de Dominica qui aurait pu, comme tu dis, être sur son album précédent, c'est sa couleur.
Mais même dans sa manière de faire chevroter les A.
Ouais, peut-être.
Olivier.
Non, moi, à peu près le même avis que vous. À la limite, je le vois avec un peu plus de fraîcheur, parce que justement, toute l'époque années 80, tombée pour la France, le pull bleu marine, ça me cassait un peu les pieds. J'accrochais pas trop à l'époque, c'est avec mon grand âge que j'ai petit à petit redécouvert, justement, que les rentrer dans une ambiance plus électropop, qu'on retrouve fort ici, je trouve. Qui moi me plaît beaucoup, je trouve que c'est super bien produit, la musique derrière est très fort, il y a une ambiance comme tu disais, John Barry à la James Bond comme ça sur certains morceaux, très classe, qui fonctionne bien avec sa voix, qui je trouve n'a pas beaucoup bougé avec les années, il reste quand même très fort, il y a ce côté romantique, spleen, permanent dedans, donc moi j'ai beaucoup accroché, et justement, pas trop en ayant les références des années 80, mais plutôt ce qu'il a fait dans les années 90 ou 2000 avec Saint-Étienne, non pas Saint-Étienne.
Saint-Étienne d'Ao.
Saint-Étienne d'Ao.
Voilà, non, mais il avait fait un groupe dont le nom m'échappe, mais un groupe très électro-français. Il avait fait des choses vraiment dans cette couleur-là. Je trouve qu'il revient à ça, et donc voilà, je trouvais ça très efficace, ça fonctionne bien au niveau des textes. Voilà, c'est très poétique, je trouve que ça fait du bien d'entendre un peu, d'entendre des choses que tu comprends pas immédiatement, mais qui sonnent bien dans l'oreille.
Oui, ou
ça change
manie,
un peu de.
Ouais, ou cette manie de faire des phrases uniquement avec des verbes, comme ça. Nager vers l'autre rive, parvenir de l'autre côté, hein, comme ça, de manière lancinante.
Voilà. Mais je pense que le côté justement lancinant fait partie de l'album et de l'ambiance qu'il veut mettre dedans. À la limite, 17 morceaux, je trouvais ça un peu trop long. Moi, les albums qui font plus de 12 ou 13, je sature vite. Mais...
En fait, le morceau fait 11 et les 6 suivantes, c'est le CD bonus où il reprend les chansons dans d'autres versions, je pense. Hein.
C'est donc ça. Ouais. Parce qu'on avait un à 13€ et un à 9€. Et moi, j'ai tout donné. J'ai pris celui à 13€.
Je vais pas avoir, j'ai pris le cher.
Tu vas donc payer cet album.
Eh oui, oui. Ah bah oui. Bon, ben on va un petit peu le côté, hein, comme à l'école des fans. Je lui mets 7 sur 10 à cet album, Nico.
Moi, je lui mets 8. Oui.
Ouais, même chose, hein, 8, c'est un bon album.
Moi, 7.
Oh, ouais. On est copains aujourd'hui.
Comme ça.
Alors, sachez que dans les pages de notre vénérable magazine qui sort ce vendredi, notre ami Philippe Cornet, qui a chroniqué cet album de plaisir vintage, Sick, a eu l'air de se réconcilier avec Dao à travers lui et l'a même rencontré à l'Amigo où ils ont parlé santé, politique, pudeur, impudeur, etc. Voilà pour le teasing. Oui, Philippe Cornet qui avait l'air de dire que Tien Dao, vocalement, n'était pas intéressant. Alors là, je suis vraiment tombée de ma chaise. Quoi.
Ouais, c'est un timbre particulier, mais ouais, on peut pas.
Il fait un peu l'amour à son micro, quoi, toujours, non ?
Ah oui, mais quel organe, enfin, quelle jolie vibration de... Enfin, c'est une vraie voix, même s'il ne fait pas des acrobaties à la Céline Dion, moi, je trouve.
Je me rappelle que dans les années 80, dans les cours de récré, on se moquait d'Étienne Dao qui ne savait pas chanter.
Mais enfin...
Ceux qui aimaient Étienne Dao étaient considérés comme des...
Ah, les enfants sont méchants. Méchants.
Coquisto !
Maman ! Ça y est, papa, il a compris. Non, fous le camp, mon vieux. Je veux dire, t'es assis sur mon oreiller. J'ai aucune envie de dormir avec l'odeur de tes pets. Alors va te coucher, ras-le-bol.
Ah, bon ben, bonne nuit.
Eh ben, c'est ça, bonne nuit. La porte. Merci.
Bon, la suite. Les garçons et Guillaume à table, c'est l'adaptation d'un seul en scène de Guillaume Gallienne, prestigieux sociétaire de la Comédie française. Jeune homme qui a longtemps cru qu'il était une fille, tandis que sa famille, lui, le prétendait homosexuel, ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose. Il nous raconte son enfance et son adolescence bourgeoise aux côtés d'une mère légèrement dysfonctionnelle. C'est Guillaume Gallienne lui-même qui joue son rôle, ainsi que celui de sa mère et de la mère de Sissi, et de Sissi elle-même, parce que ce film convoque évidemment des références gays, mais échappe quand même aux classifications. Il parle avec pudeur et élégance de l'identité sexuelle et de l'identité tout court, de la peur et de la solitude. A priori, pas vraiment ce qu'il y a de plus jojo, mais je peux vous assurer que dans la salle numéro 1 de l'UGC Toison d'Or, qui est la plus grande salle, la salle qui était comble d'ailleurs, les gens ont failli décéder tellement ils se marraient. Tout le monde, on se demandait si...
Je crois que les gens sont un peu conditionnés, parce qu'il y avait... Il y avait une pub pour une marque de voiture, je pense, avec des poules qu'on fait bouger.
Oui, tout à
fait.
Oui.
Les gens étaient morts de rire. Le film n'avait pas encore commencé, que tout le monde était déjà très
Tout ça, c'est grâce
chaud.
À la pub.
Non, il y a un truc très gênant dans les rires provoqués par le film, on va peut-être en parler.
Oui.
Je trouve, personnellement.
Oui, mais écoute, j'ai entendu parler de cette fameuse gêne dont lui-même a parlé en interview, Guillaume Gallienne. Et bien, moi, dans ma salle, il n'y avait pas ce... Je n'ai pas ressenti ça. Enfin, bref. En tout cas, tout ça pour dire que d'un sujet apparemment de niche et de sa propre vie, Gallienne réussit un film qui touche à l'universel, qui va chercher tout le monde, qui est un vrai film de cinéma et pas simplement un one-man show filmé, parce que moi je l'avais vu en spectacle sur scène, et c'est pas exactement la même chose. C'est vraiment un petit bijou, je trouve, que ce Guillaume, les garçons et Guillaume à table, qui a déjà reçu plein de récompenses et à qui on prédit un César. Olivier, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors, ben, tu as déjà dit beaucoup de choses sur le film, donc on reprécise que à la base c'est un sociétaire de la Comédie française qui a en 2008, je pense, créé son spectacle tiré de sa propre vie, donc effectivement...
Ouais, qui s'appelait pareil.
Qui s'appelait de la même manière Les Garçons et Guillaume à table. Les Garçons et Guillaume parce que c'est la manière dont sa maman le haranguait quand il était petit. Et donc, très clairement, on faisait une différence entre lui et ses deux frères. Et donc, effectivement, tout le film et tout le propos est de confondre... Il ne faut pas confondre quelqu'un qui a des troubles d'identité et quelqu'un qui est homosexuel. Mmh. C'est quelqu'un dont la famille l'a pris pendant très longtemps homosexuel et lui-même s'est pris pour une fille, mais il n'est pas homosexuel. Et donc, tout tourne autour de ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très subtil, c'est très fin, il y a beaucoup de pudeur, c'est un petit bijou de film, mais effectivement moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné, et autour de la thématique, et la manière dont il est perçu, dans les rires qui étaient provoqués dans la salle.
Je trouve que les gens riaient de son côté efféminé,
il y
avait des relents homophobes
là-dedans. Je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, il y a parfois un sentiment, comme certains racistes disent qu'ils ne sont pas racistes parce qu'ils ont un ami noir, il y a... un petit truc pervers autour de ce film où on va voir un film qui parle de l'homosexualité parce que je n'ai rien contre l'homosexualité, alors que ça ne parle pas de ça justement. Il y a parfois des gags qui sont forcément basés là-dessus, quand il est au collège, quand il y a des gags parfois un peu crus, je trouve, quand il se fait faire un lavement par exemple, on tombe presque un peu dans le burlesque, ça n'a pas grand chose à faire là, les gens sont morts de rire. Bon, je trouve que ça vient pas, c'est pas tellement dans le propos, et je trouvais vraiment que la manière dont les gens perçoivent ce film, il y a presque une petite gêne. Il y a presque du politiquement correct à devoir trouver ce film excellent.
Ah ouais.
J'ai trouvé que c'était un bon film, mais un bon petit film, je veux
oui,
dire.
Oui, tout à fait.
Voilà, mais on en a fait
un
quelque
petit
chose. Je pense que l'acteur est vraiment remarquable. Ça, c'est clair que je pense qu'au niveau des Césars, il n'y aura sans doute pas beaucoup de surprises. Il est magnifique quand il fait sa mère lui-même. Il est très subtil. On voit que c'est un sociétaire de la Comédie française dans son jeu. Après, la manière dont on emballe le film, dont on en fait quelque chose qui a priori n'est pas, il y a quelque chose d'un peu gênant. Il y a quelque chose dans ce succès de presque pas naturel, de presque forcé, parce que ça parle d'un sujet entre guillemets délicat. Et voilà, moi j'ai senti ce petit décalage entre le rire des spectateurs et ce qu'il essaye de communiquer.
Je sais pas si on parle exactement de la même chose, mais est-ce que vous avez vu Bien de Candelabra, le film Ma vie avec Liberty.
Non, toujours pas.
Oui. Il y avait aussi, en tout cas dans la salle dans laquelle j'étais, une forme de rire un peu gênante de la part du public qui...
Presque trop forcé, comme ça.
Oui, qui avait l'air mais à la fois d'adouber les personnages et de les trouver hilarants parce que homosexuels et...
Mais en même temps, dans Bianca de Candelabra, je trouve qu'au-delà de l'homosexualité, ils étaient over the top, ils étaient vraiment tellement excessifs que... Je trouve que le rire se prêtait mieux peut-être qu'à celui-ci.
Oui.
Ici, je trouve que effectivement, enfin Olivier te l'a peut-être sous-entendu, mais le film est assez bien pensant et finalement les réactions des gens sont peut-être assez bien pensantes aussi.
Il y a quelque chose un peu gênant là-dedans, c'est quelque chose qui se voudrait particulier effectivement. Le thème est tout très très original. J'avais jamais vu un film sur
un coming in en fait. C'est pas un coming
out. Oui, c'est ça,
c'est
exactement. Il fait son coming out sur son hétérosexualité, donc c'est vraiment. Là-dessus, c'est un retournement très drôle, mais effectivement, dans la manière dont le film est construit, c'est finalement très bien pensant. Il se retrouve bien parce qu'il est accepté par sa maman, qu'il est hétérosexuel et pas homosexuel. Voilà, il y a quelque chose, je trouve, qui moi m'a un petit peu gêné dans la manière de le recevoir. Mais après ça, effectivement, c'est un très bon petit film. C'est pas du tout de la scène filmée, même si c'est très malin parce qu'il y a des extraits de spectacle, ça mélange un peu les époques. J'ai été le voir avec ma compagne qui n'a pas tout de suite compris dans la construction du film. On le voit adulte, mais jeune avec sa maman. Oui. On comprend pas si c'est lui quand il est petit, mais qu'il le joue grand. Enfin, il y a parfois des... Il faut presque un petit peu une sorte de manuel d'explication avant d'aller voir le film. Comprendre que c'était d'abord une pièce de théâtre, que c'était de sa propre vie, et qu'effectivement, il y a des scènes qu'il se joue grand où il est censé être petit.
Oui.
Voilà, il y a des décalages comme ça. Au début, si on n'a pas cette grille de lecture quand on arrive dans le film, on peut ne pas très bien comprendre comment un type d'à peu près 40 ans se retrouve sur la vie de sa maman.
Oui, c'est ça, à lui parler avec une voix de bébé.
Voilà. En même temps, ça fait partie peut-être de la fantaisie du film. Les scènes sur scène, on peut se dire que la vie, c'est un peu du théâtre. Enfin,
oui, il y a sans doute de ça, tout à fait.
Finalement, ça fonctionne.
Et moi, ça m'a pas gêné du tout. Ce principe-là m'a pas gêné. Mais...
Dis, Laurent, toi qui t'intéresses un petit peu, comme ça on dit le temps, à la musique, qu'est-ce que t'as pensé de la BO du film?
La question
piège. Ça m'est complètement passé.
Elle m'a pas marqué.
Non,
mais alors là, pas du tout.
Ah, moi, je trouve que ça réhabilitait parfaitement Supertramp avec Dante.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un morceau qui
est ça, c'est piloté, oui.
Effectivement.
Que j'écoute en boucle depuis. Oui.
C'est juste.
Non, je n'aurais pas été jusque-là.
Et puis du Julio Iglesias repris par Arnaud. Enfin, je trouvais qu'au niveau musical,
la musique de fin était vraiment intéressante.
Bon, bah écoute.
Désolé.
Et à part ça?
À part ça, moi, j'ai au contraire senti très fort le côté théâtre, que ça venait du théâtre en fait. Je suis arrivé complètement innocent dans la salle de cinéma, donc je n'avais même pas capté le fait que ça venait, qu'au départ ça avait été créé comme une pièce de théâtre, comme un one man show. Donc je trouve qu'il reste encore fort ça dans la diction, dans certains dialogues. Et alors mon autre problème, c'est pas seulement les clichés autour de l'homosexualité, c'est les clichés en général. Alors j'entends bien que c'est le propos du film,
enfin, de dénoncer.
Cette fameuse scène complètement balourde où il s'en va en Allemagne faire une thalasso.
La
scène du lavement où d'abord il se fait masser par un gigantesque Allemand qui le retourne dans tous les sens. Enfin, il y a un côté grotesque mais vraiment balourd, humour français des années 70. Enfin, que moi qui me laisse complètement.
Ça faisait un peu les bronzés, quoi.
Oui,
mal à propos qui dans le film qui n'apporte rien.
Alors après, je trouve que dans l'ensemble, ça se noie un peu.
Enfin, c'est une séquence de scènes qui dure 7 minutes.
Il y en a plein d'autres comme ça, des clichés. Enfin, il y a des clichés sur les Espagnols, sur les Anglais, sur le gay qui forcément, la personne qui adore Sissi est forcément gay. Enfin, il y a comme c'est une espèce de d'accumulation. Il y a des dossiers. Donc, c'est le propos du film, mais à partir de quel moment? C'est toujours le problème quand on utilise des clichés pour les dénoncer, à partir de quel moment, justement, par exemple, dans la salle, on les voit, ces clichés, ou simplement on en rit, quoi, au premier degré.
Bon, moi, ça ne m'a pas du tout gêné.
Et je trouve que ça.
Je trouvais que ça faisait partie du contrat tacite, comme cette fameuse fantaisie où on le voit adulte parler avec une voix d'enfant.
Mais après, quand tu vois le film en entier, tu vois le truc dans sa globalité, en effet, tu trouves ça intéressant, plutôt malin et culotté, en fait, comme proposition d'accumuler tout ça. Mais
après, il y a toujours une gêne.
C'était parfois un peu.
Il y a toujours une gêne, excuse-moi, je te coupe, sur le principe d'un réalisateur, d'un auteur qui fait sa psychanalyse devant toi, parce que clairement, son spectacle, c'est ça.
Oui.
Son film du spectacle, c'est ça. Bon, ici, le propos est vraiment original, donc c'est intéressant, mais d'être pris à témoin de la psychanalyse d'une personne qui a pris je ne connais pas, c'est pas spécialement ma tasse de thé comme ça à la base. Ici, encore une fois, le propos est original, vraiment original, donc ça fonctionne. Et encore une fois, en tant qu'acteur, le type est vraiment remarquable.
Et surtout dans le rôle de sa mère, par exemple.
Ah ouais.
Ouais, tout à fait.
Quelle
plus
classe.
Que dans son propre rôle. Ouais. Ouais.
Mais ce côté autobiographique, moi, je trouve que c'est justement ce qui sauve le film, dans la mesure où on sent que le film, il triche pas, en fait, quoi. Il est sincère et, et en fait, ça justifie presque tout, quoi. Ouais, juste l'humour un peu naze par moment, et parce que la fin du film est touchante et on se rend compte que c'est un peu une sorte de déclaration d'amour à sa mère au-delà de son truc de quête d'identité un peu comme ça. Et moi, juste encore une réserve par rapport au film, moi je trouve que le fait qu'il y ait du spectacle dans le film montre notamment, j'ai l'impression qu'il maîtrise pas bien le langage cinéma, quoi. Cinématographiquement, je trouve ça pas bon, en fait, le film. C'est pas très bien réalisé, il y a des scènes, on dirait du théâtre de boulevard,
quelques idées quand même.
Le fait que ce soit, pourquoi est-ce que c'est narré finalement sur scène, en fait, on a l'impression qu'il n'a pas trouvé d'autres façons de raconter son histoire.
C'est facile, c'est habile.
C'est un clin d'œil au fait que c'était d'abord un spectacle, je pense, et qu'il assume le fait que ça a été quelque chose d'abord raconté sur scène.
Il y a des idées. Il arrive avec des idées de mise en scène un peu originales et c'est raté, par exemple, quand on l'appelle pour aller manger, justement, et il descend en caméra subjective.
Oui, tout à fait, je pense
que cette scène, elle est nulle, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça apporte? Ça dure super longtemps, la caméra bouge dans tous les sens, puis ça ne revient plus jamais dans le film, c'est un motif qui est oublié, comme ça. Enfin, par moment, je trouve qu'il se cherche un peu au niveau de la.
Vraiment sévère là pour le coup.
Sévère, mais...
Après, je trouve que le côté justement sincère du propos fait que ça fonctionne et que c'est quand même drôle par moment et que sur la fin, c'est même carrément émouvant. Quoi.
Oui, c'est émouvant. Ça, j'ai pas vu ça comme une grosse comédie. Non. C'est ça le décalage qu'il y avait entre des rires presque permanents dans la salle et quelque chose de finalement très subtil avec beaucoup de pudeur et quand même effectivement assez émouvant sur la manière dont lui-même. En tant que gamin, ce type a quand même eu une jeunesse compliquée, quoi. Donc,
mais il allait en vacances dans des très beaux endroits. Hein.
Oui, l'Espagne, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais ça a l'air charmant.
Bon, excusez-moi, je vais lui mettre 8 sur 10 à ce film. J'ai même envie de pousser jusqu'à 9, juste pour vous embêter. Nico ?
Oui, ça m'embête un peu. Moi, je vais mettre 6.
Je vais être chèvre shooté, je vais mettre un 7.
Non, 6.
Bon, eh bien, sachez que notre grand maître à tous, Jean-François Pleugers, a aimé ce film. Il a écrit dans Focus qu'avec Les Garçons et Guillaume à table, l'acteur réalisateur signait une épatante comédie à la première personne, un film se jouant allègrement des clichés et des conventions, comme pour mieux réinventer le genre. Ah ah
ah ah. Mais contente. Mais peut-être c'est un film forcément qui parle aussi beaucoup à un public féminin, peut-être.
Oui.
Sur cette manière de s'identifier, c'est, ça veut dire quoi, être une femme, c'est sans doute des subtilités que...
Oui, j'avoue que je ne sais
pas. Est-ce qu'on ne tombe pas un peu dans les clichés qu'on dénonce?
Oui, oui, me semble aussi. Enfin...
No, mother, there's something wrong with me.
Don't be scared. I'm going to protect you. You don't think about the future, but what's going to happen when you grow up?
It's all going to be good, Norman.
Bates Motel, c'est une série télé diffusée aux États-Unis sur une chaîne qui s'appelle A&E, dont je n'avais, je vous l'avoue, jamais entendu parler auparavant. Petite chaîne donc pour une série qui n'en était pas moins très attendue, d'abord par son univers, celui du film Psychose d'Alfred Hitchcock, plus précisément du motel de Grand Route où Norman Bates vivait sous la coupe de sa mère. On le retrouve ici aussi, le motel, mais également le Norman, adolescent. Mais de nos jours, c'est donc ni un prequel, ni un sequel, ni un remake du film, c'est un truc assez indéfinissable, mais qui veut, j'imagine, montrer la jeunesse d'un tueur et d'un prédateur. Il est joué par l'inquiétant et touchant à la fois Freddy Highmore. Alors, qui est-il ? Qui est Freddy Highmore ? Eh bien, c'était le petit garçon de Finding Neverland et aussi celui de Charlie la chocolaterie.
Allez.
Qui a aujourd'hui la
dans Spiderwick.
Petit... Pardon ?
Et dans Spiderwick, il a fait plein de rôles d'adolescent comme ça.
Oui, et de petits bambins, hein. Parce que là, il a quand même 22 ans, je pense, et il en joue un gamin de 14-15 ans. Et celle qui joue sa mère dysfonctionnelle, hein, décidément, aujourd'hui, c'est la thématique, c'est Vera Farmiga. C'est une pure MILF vue au cinéma. Dans... Ouais, vous avez l'air d'être d'accord avec moi.
Je confirme complètement.
J'ai eu un rire gras, excusez-moi.
On l'a vue au ciné dans Up in the Air, dans Hugo Cabret et dans Les Infiltrés de Martin Scorsese, entre autres choses, qui est très bien, je trouve, en manipulation. Actrice un petit peu malgré elle, enfin on ne sait pas vraiment, dans une série très inégale, très cliché dans sa peinture du monde adolescent, assez tirée par les cheveux, sans grande subtilité, mais étonnante aussi par un côté trash et glauque assumé. Je sais pas trop quoi en penser. Nico, est-ce que tu es plus tranché que moi?
Je suis plus tranché que toi, Myriam.
C'est simplement de la merde.
Allez, on va dire ça comme ça.
D'accord.
C'est pas bon. Il y a plein de problèmes avec cette série, dont certains, enfin, que t'as déjà un peu soulevé rapidement dans ta présentation. Le fait que, pour moi, enfin, c'est quand même vendu comme un prequel de Psychose.
Ah oui?
Clairement.
Mais avec des smartphones et des trucs à la con comme ça.
Mais ça se passe en 2013 et ça se passe pas dans la même ville. Donc le Bates Motel de la série ne se trouve pas dans la même ville, ni d'ailleurs dans le même état que dans le film d'Hitchcock. Enfin bon, limite passons. Enfin, oui, je vois pas l'intérêt. Ouais, alors, faisons une série originale, quoi. Je veux dire, je veux pas jouer les puristes finis, mais tant qu'à prendre des libertés comme ça, alors je comprends pas bien l'intérêt. Mais par contre, ouais, je trouve que cette idée de prequel au Psychose de Hitchcock, c'est en fait une double mauvaise idée. D'abord parce que Psychose, qui est sans doute l'un des films les plus connus d'Hitchcock, en fait, c'est aussi un des plus mauvais, moi je trouve.
Nicolas Clément, c'est-à-dire ce garçon.
Non, mais c'est vrai, formellement, ça tient la route, forcément, c'est Hitchcock. Anthony Perkins, Janet Leigh, c'est vraiment des super acteurs, ils sont vraiment magnifiques dans le film. Mais revoyez ce film aujourd'hui.
La scène de la douche,
dont le propos n'est pas
insignifiant, vieux.
Je sais pas si vous avez vu le film récemment.
Oui,
mais
je l'ai vu récemment.
C'est grand guignolesque au possible. La révélation finale dont Hitchcock était si fier et grotesque. Et c'est vraiment de la psychanalyse de bazar, quoi. C'est vraiment au niveau des thèmes. Enfin, je trouve ça assez mauvais. Et deuxièmement, en fait, la fin de Psychose, donc la fin du Psychose d'Hitchcock, quoi, avec cette scène interminable où le psychiatre surexplique ce qui s'est passé, la jeunesse de Norman Bates, en fait, raconte ce qui va se passer à la fin de la série. C'est-à-dire qu'on sait tout à fait ce qui va devenir de la mère de Norman Bates. Et donc, je trouve que ça limite déjà assez singulièrement les enjeux de la série.
Mais comme on n'en est pas sûr, vraiment,
ils vont peut-être nous dire que, voilà, en 2013, ça s'est pas passé tout à fait comme ça, mais enfin, je veux dire, on sait comment Norman Bates est devenu ce qu'il est devenu dans le film déjà. Donc, bon, voilà, je trouve que l'intérêt de la série est limité à ce niveau-là. Alors, après, on peut se dire que l'intérêt au-delà de ça, ça peut être simplement de montrer comment il en arrive là, ce qui semble être le but de cette série. Mais alors là, je trouve qu'il tombe vraiment dans le problème de 95% des séries télé aujourd'hui, c'est-à-dire cette logique de surenchère. J'ai fait le compte, après deux épisodes, en fait, sa mère se fait violer, tue un gars, et un mec brûlé s'écrase en bagnole devant chez elle, devant chez elle.
Le pendu, c'est après, je sais plus.
Et lui, pendant ce temps-là, donc pendant les deux premiers épisodes de 42 minutes de la série, lui, pendant ce temps-là, met à jour un trafic d'esclaves sexuels asiatiques.
C'est vrai.
Et se fait poursuivre par des mecs armés dans un champ de cannabis. J'ai envie de dire,
C'est un peu rocambolé.
C'était un peu trop pour moi. J'ai l'impression qu'en fait, on compense le manque d'idées par une surenchère qui est censée, je sais pas, faire grimper le taux d'adrénaline toutes les 12 minutes. Et je ne suis pas client.
C'est américain. Mais Norman et Norma, Olivier, ils sont bien, non?
Moi, je suis, j'allais dire très MILF. Non, je suis très Vera Farmiga. Je trouve que c'est une super actrice.
Ah ouais.
Elle a des yeux absolument incroyables. Je suis moins sensible à l'acteur qui joue Norman Bates. Je rejoins tout à fait ce que tu as dit. C'est complètement rocambolesque par moment. Il rajoute des couches à des couches à des surcouches. Il n'y a pas un personnage qui est vaguement normal. Lando, ils ont tous un cadavre dans le placard, un esclave chinois derrière leur porte. Enfin, c'est un peu n'importe quoi.
Ou la mucoviscidose.
Voilà. Et après, ce qui m'a gêné, justement, là-dedans, c'est qu'on pourrait être dans. Oui, elle aussi, évidemment. Ce qui m'a gêné, c'est justement, ça aurait pu être glauque, ça aurait pu être des personnages sur le fil du rasoir, enfin, où on met un malaise à l'image. Et
là, il n'y a pas de malaise.
Voilà, on le sent pas. On est dans l'action, on est très peu touché par son viol au début, par le meurtre du deuxième, par le meurtre qui revient derrière. Donc, voilà, tu pourrais t'attendre à quelque chose d'un peu pervers et d'un peu sale, parce que c'est quand même les relations très malsaines, voire incestueuses, entre une mère et son fils très bizarres. Et finalement, c'est une corde sur laquelle il ne tire pas. Jim Campion, pour reparler Top of the Lake, on aurait fait un truc plus tendu, plus atmosphérique. Ici, pas du tout, jamais. Et donc, c'est un peu surprenant. Donc, voilà. Après, est-ce que j'ai pris du déplaisir à la regarder? Pas vraiment. Ça m'intéressait quand même de savoir un petit peu ce qui allait se passer. Donc, j'ai suivi quelques épisodes. J'ai pas vu jusqu'à la fin, jusqu'au sixième.
Oui, moi aussi. Je ne poursuivrai pas, je vous l'avoue.
Bon, je passerai peut-être vite au dixième si à un moment je peux le voir comment se finit la première saison, puisque visiblement ils ont signé pour une deuxième. Donc, ce qui va arriver à sa maman ne va a priori pas arriver à la fin de la première saison.
Mais donc ça veut dire qu'il va leur arriver plein de trucs avec plein de personnages. Et je reviens encore une fois avec ce truc de puriste un peu à l'amour-malheux.
Par rapport à cet exécrable film qui est.
Mais non, c'est pas ça. Mais dans le film, on nous dit aussi clairement qu'en gros, ils vivaient comme des sortes d'ermites fusionnels après la mort du père de Norman, qui est quand même le début de la série. Ici, et donc c'est pas du tout le cas. Donc je veux dire, qu'est-ce qu'ils foutent, quoi, finalement, dans cette série?
Laurent,
Je sais pas, moi j'ai pas vu le film de cette vieille quiche de Hitchcock, donc je peux pas comparer, mais ça, forcément ça ne m'a pas posé problème. Par contre, moi j'ai été jusqu'au 7e, 8e, je pense.
Ah, quand même.
Et donc, mais ce qui est très étrange, c'est qu'après le 6e, il y a déjà.
Il y a un twist, non, après le 6e.
Oui. On sait justement ce qui est arrivé au papa pour expliquer.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Mais on a déjà eu toute une intrigue qui est complètement déliée au 6e, dont on sait déjà tout. Et donc on a l'impression déjà qu'on doit relancer la série avec une autre truc. Enfin, c'est très bizarre que sur une seule saison comme ça, il y a déjà deux grosses intrigues et qui. Ouais. Enfin voilà, c'est comme si ils avaient été pris par leur propre surenchère et qu'ils étaient arrivés trop vite au bout de leur première. Et donc il y a un personnage comme ça assez pas central mais qui sert voilà qui est un des enjeux, ouais, enfin l'esclave asiatique en l'occurrence,
oui.
Donc, qui disparaît et tout. Les épisodes suivants, on n'en entend plus du tout parler. Donc, personne ne s'inquiète de ce qu'est devenue cette fille. Alors voilà, je n'ai pas été plus loin, donc peut-être qu'on en sait davantage par la suite. Mais voilà, il y a comme ça des flottements.
Ouais.
Et même le personnage donc, principal de Norman Bates. Mais il y a certains épisodes où il est quasi secondaire. Quoi. Il s'efface devant d'autres personnages. Et ouais, la vraie star de la série, finalement, c'est en effet la mère.
Mmh. Ouais. Bon, bah écoutez.
Mais c'était pas déplaisant, en effet.
Comme je savais pas trop quoi en penser, j'ai mis 5 sur 10. Mais c'est vrai qu'en vous écoutant, je me trouve bien généreux. donc, oui, bah bon. Allez, restons sur 5. Je ne vais pas m'édédire. Nico.
Je vais mettre 3.
Moi, je suis moins sévère que vous, mais c'était peut-être mon public de mettre un petit 6.
Ah, oui, quand même.
Moi aussi.
Carrément.
Un petit 6 de deuxième partie de soirée quand t'es fatigué, ça dure 40 minutes.
Voilà.
C'est agréable, et puis elle est jolie quand
même. Mais oui, mais vous savez qu'elle n'a que 39 ans. Hein.
Oui.
Enfin, voilà, bref. À noter que Bates Motel. Oui, mais c'est jeune pour avoir l'air si vieille, je trouve. Parce que, enfin, je le comprends. La série est diffusée donc, depuis fin octobre sur la chaîne 13ème rue qui est distribuée chez nous, et elle sortira en DVD en Belgique au mois de février prochain. Alors je me tourne vers toi Nico, parce que bon, la rentrée série américaine, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est une vraie catastrophe, c'est un torrent de bouse. Est-ce que tu as vu quelque chose passer à un moment donné aux États-Unis ou ailleurs de plus ou moins correct à se mettre sous la dent en matière de séries, de nouvelles séries
cette année ou en 2013 ou depuis septembre?
Cette saison, depuis septembre.
Depuis septembre, on avait parlé de Master of Sex, moi j'étais pas super client, mais c'est ce que j'ai vu de moins mauvais, j'ai envie de dire. Sinon, en 2013, moi, je sauverais The Americans dans les nouvelles séries, qui étaient vraiment très, très bien.
Ok, donc c'est pas cette saison-ci, c'est la précédente,
ouais.
Mais
c'était diffusé en 2013, quoi. Ouais, je veux dire, voilà. Mais effectivement, ouais, ça a commencé en janvier, je pense. Sinon, bon, j'ai raté plein de trucs, forcément, mais même Under the Dome, là, qui a beaucoup de succès aux États-Unis.
Bon, on en parlera la semaine prochaine. Enfin,
ah oui, d'accord. Le pitch est intéressant. Ouais. Le pitch est intéressant.
C'est la série de
King.
Stephen King.
Ouais, adapté de Stephen King. Ouais, le pitch, c'est un peu intriguant et tout ça, mais les personnages et les acteurs, c'est un petit peu la cata.
Bon, on en parlera dans 2 semaines, alors rendez-vous là-bas. Enfin, je vous propose de nous pencher sur une BD, ou plutôt sur un roman graphique, puisque c'est l'adaptation d'un roman classique, Les zombies n'existent pas. Le roman s'appelle, lui, Lazarus, il est signé Emmanuel Dadoun, je sais pas si je prononce bien, et cette fois, il a été mis en image par un certain Sylvain Escalon, qui a à peine 23 ans et donc c'est le tout premier album. Contrairement à ce que le titre du bouquin indique, il n'est pas question ici de zombies de type The Walking Dead, mais bien d'une série de meurtres qu'on va vite attribuer à un homme mort il y a plusieurs années, mais qui semble avoir repris vie pour l'occasion. C'est noir jusque dans le traitement graphique, puisque c'est du noir et blanc assez poisseux, assez huileux, assez envoûtant aussi. Mais c'est quand même un petit peu décevant, puisqu'en réalité, ça donne surtout envie de lire le roman, je trouve, de voir comment ils développent les personnages, leur passé, leurs blessures, etc. Ce qui me semble assez survolé ici, un peu expédié au pas de charge. Bref, je suis quand même bien restée sur ma faim. Olivier, toi qui es le spécialiste du genre.
Je suis spécialiste du genre, mais pas spécialement de cette bande dessinée-là. Et puisque c'est un inconnu, hein, tu l'as dit, Sylvain Escalon, c'est son premier bouquin très ambitieux, puisqu'il faut visualiser le bouquin. C'est quand même un bouquin, il y a quoi, près de 200 pages à peu près.
Ouais.
C'est très épais, c'est très costaud. Effectivement, c'est dans une tradition de dessin. Pour un jeune, c'est a priori étonnant, puisque ça fait appel un peu à du Comès, à du Tardi, c'est vraiment des masses de noir basées sur le trait. Ça fait penser un petit peu à Marc-Antoine Mathieu, qui fait Julius Corentin à Kefak par moment. Donc voilà, c'est très ambitieux, c'est très, ça se veut mature au niveau du dessin. Et effectivement, ça reste quand même un peu lourdingue à lire. Donc, l'intrigue en soi est chouette. C'est vraiment du polar à la française, dans le nord de la France, des meurtres.
Tu as lu le roman ?
Non, je n'ai pas lu le roman. Qui était d'ailleurs édité chez Sarbacane
aussi.
Oui,
aussi. Ouais.
Mais je n'ai pas lu le roman. Mais voilà, on est vraiment dans les clichés du roman français. Le vieux flic un peu blasé, le tueur...
Qui s'appelle Kowalski.
Ouais. Qui s'appelle Kowalski.
Comme tout le monde.
Décidément. Et voilà, donc... On reste un peu sur sa fin. C'est très ambitieux, c'est très prometteur. Toutes les critiques qu'on peut lire là-dessus, c'est qu'effectivement, l'auteur, a priori, va être à suivre puisqu'il est très jeune et c'est très ambitieux. Sur le contenu même du livre, c'est très déconstruit. Donc, c'est pas un récit linéaire du tout. Hein. On voit de temps en temps dans la tête du flic, dans la tête du tueur. Effectivement, il y a cette surprise de savoir que ce personnage est censé être mort il y a un an. Donc, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort, comment ça s'est passé? Évidemment, pas le dévoiler, mais ça fait partie.
Moi, j'ai pas tout compris, je dois bien le dire.
Ça fait partie du corps, mais ça fait aussi référence après à des personnages type Gilles de Rais, vers la fin, si on lit bien le bouquin, qui fait penser à des personnages. Donc, Gilles de Rais, c'était quelqu'un au 15e siècle qui était le compagnon de Jeanne d'Arc.
Et qui a fondé l'île de Rais.
Pas du tout, mais à qui on attribue d'être plus ou moins le premier tueur en série de l'histoire. Voilà. Je vous laisse rire, mais voilà. Donc,
okay.
Bon, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est un peu décevant vu la taille et la promesse du livre. Je pense à un auteur à suivre. Pour ceux qui aiment ce genre de traitement graphique, c'est vraiment intéressant. Ceux qui aiment les polars, c'est l'éternel problème du traitement du polar en dessin, où généralement on rajoute du cliché à du cliché. On vient mettre des masses de noir et des traits très atmosphériques sur un récit qu'il est déjà. Donc c'est comme si on venait souligner quelque chose qui est déjà souligné. Donc c'est toujours un peu gênant dans le traitement du polar. On n'a jamais de grandes solutions par rapport à ça. Le seul très bon, c'était ce qui était bon en 2013. Bruno a fait récemment Tyler Cross par exemple un polar où c'est plus intéressant parce qu'il joue sur les clichés mais avec des traitements qui sont dans vraiment une esthétique tout à fait particulière avec des couleurs qui sont différentes. Ici on est vraiment dans le cliché de la manière dont on peut raconter un récit, un polar noir et il n'est pas encore tardé ni comme est, donc il y a encore des un peu d'amateurisme.
Bon, à 23 ans, c'est quand même assez impressionnant.
Voilà, mais ses visages sont très répétitifs. C'est quand même très gênant. Je trouve c'est la manière dont il.
Oui, ça manque carrément de lisibilité par moment.
Voilà, oui. C'est très lourd, comme je disais. C'est très déconstruit. Tu sais pas trop où tu t'y trouves. De temps en temps, ça passe à la première personne. De temps en temps, ça passe à la voix off. Enfin voilà, je trouve c'est un petit peu déconstruit de la manière dont je l'ai vu. Mais c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à la bande dessinée. Et ce type de bande dessinée là, c'est effectivement un auteur à suivre.
Laurent,
moi je suis assez bien rentré dedans en fait. Ouais. Je trouve que le seul problème du livre, bon. Il est forcément central, mais c'est le fait que ça soit une adaptation, quoi, d'un roman qui doit être autrement plus encore complexe et dense. Et donc, je trouve que ce qu'il arrive à bien faire, par exemple, c'est dans les dialogues. J'imagine qu'il a été pas mal repêché dans le bouquin. Et
a priori.
Généralement, ça passe pas toujours bien dans le dessin ou dans la narration de la BD. Et ici, je trouve qu'il arrive à bien doser, que ça passe assez bien, que c'est assez crédible. Par contre, en effet, il y a un moment où on sent qu'il se détache pas assez du livre. Et donc ça, il y a deux trois planches comme ça qui sont très complexes et inutilement, enfin il fait dire des choses à ses personnages dont on pourrait très bien se passer. Il y a une espèce de demi love story comme ça qui n'est absolument pas utile dans la BD, qui j'imagine dans le bouquin
une sorte de déférence au bouquin de référence.
Oui, c'est ça. Et donc voilà, j'imagine que c'est pour ça que parfois ça peut coincer et c'est un peu la limite du truc.
Voilà, moi c'est ça qui m'a gêné aussi.
Au-delà, moi je me suis plutôt bien plu.
Et toi, Nico, t'es bien plu? C'est autre chose que du Hitchcock. Hein.
Non, mais arrêtons avec ça parce que j'ai des problèmes. Non, je rejoins Olivier qui n'avait pas grand chose à dire et qui a parlé très longtemps. Et moi, j'ai pas grand chose à dire. Je vais vraiment pas parler très longtemps du tout. Je trouve qu'effectivement, oui, comme Olivier a dit, des personnages très clichés, une histoire qu'on a l'impression d'avoir déjà lu 252 fois, le prétexte qui n'est pas spécialement clair et on n'a pas spécialement envie que ça s'éclaircisse non plus. Et voilà. C'est tout. Une sorte de Seven un peu raté comme ça. J'ai noté juste que le personnage du vieil indien vivait dans un hôtel et était taxidermiste, donc comme Norman Bates dans Psychose.
Oui,
c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles.
Ah tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas une mère dysfonctionnelle aussi? Non, sinon.
Pas ici, je pense.
On remercie beaucoup le chef, Laurent Raphaël, de nous avoir invités. Non. Voilà. 5 sur 10 de mon côté.
Oui, 4,
5, 4. Un petit 6 d'encouragement quand même, il est jeune.
Oui, pareil.
Vous êtes gentils. Focus Tour. Alors, les coups de cœur de la semaine, le mien tout d'abord, c'est une BD qui n'est pas un roman graphique pour le coup, mais une biographique. Elle est signée Catel et elle s'appelle Ainsi soit Benoît Groult. Tu l'as lu, est-ce que tu l'as lu ?
Je l'ai lu.
Ah. Alors, pour les moins féministes d'entre nous, n'est-ce pas Nico ? Benoît Groult, c'est une vieille dame indigne qui écrit des romans et des essais féministes tout à fait édifiants et tout à fait passionnants et qui a une vie assez dingue. Une vie racontée donc par Catel qui met en tension son passé, son présent avec pas mal d'humour. Ainsi soit Benoît Groult, c'est un coup de cœur, déjà parce que Benoît a un sacré petit caractère, qu'elle aime pas la BD, qu'elle a peur de se voir en bécassine, enfin, c'est assez rigolo. Et c'est pas tellement la composition graphique de l'image qui compte ici, qui n'est d'ailleurs pas esthétiquement fondamentalement très intéressante, que sa puissance narrative, que sa force d'évocation. J'ai dévoré ce livre en une seule nuit, et pourtant c'est quand même une solide bonne brique, mais c'est un vrai bonheur de bouquin sur une femme vraiment extraordinaire qui nous renvoie, et c'est un peu malheureux, à notre propre médiocrité. Enfin, là, je parle surtout pour moi et pour toi, Nico. Voilà, ça va, c'est gratuit. Ainsi soit Benoît Groult, c'est donc publié chez Grasset. Donc, c'est dire comme c'est prestigieux. Mais je te vois totalement dubitatif, Olivier.
Non,
tu
je ne vais pas casser ton coup de cœur. Non, non, je suis tout à fait là. C'est un personnage tout à fait passionnant. C'est vraiment un portrait de femme génial. Après, voilà, sur le bouquin de Catel en soi, je trouve ça très lourdingue de la manière c'est fait. C'est très précieux dans le dessin. On rajoute de la lourdeur à la lourdeur, je trouve. C'était pas nécessaire et je ne comprends pas comment tu as réussi à lire ça en une nuit.
Mais je suis peut-être la plus grande fan vivante de Benoît Groult. Hein.
D'accord. Ceci explique cela alors.
Voilà, ouais. Peut-être cela. Bon, bah, tant que tu as le crachoir, dis-moi, quel est ton coup de cœur ?
On va rester dans la BD, quelque chose de plus léger, mais je pense infiniment plus drôle. C'est une BD qui s'appelle Carnet du Pérou, qui est fait par un Montpelliérain qui s'appelle Fab Caro. Et donc, le principe, c'est voilà, en bande dessinée, ces derniers temps, on voit beaucoup de carnets de voyage. Donc, ce jeune auteur, enfin, il a 40 ans, il a déjà fait pas mal de BD derrière lui, fait son carnet de voyage sur le Pérou. Donc, c'est magnifique. C'est les jeunes enfants qui te sourient dans la rue. C'est les vieux qui ont l'air tellement sympas. Et tu redécouvres l'existence en te promenant. Sauf que lui, il a tout été cherché sur Google. Et donc, on se rend compte petit à petit que ce carnet est complètement foutraque et complètement faux. Et donc, c'est une suite de mises en abîme entre son carnet du Pérou qui est fait au premier degré. Et qui est à pisser de rire, évidemment, quand on se rend compte qu'il raconte n'importe quoi. C'est quand même des bonnes petites claques à ce principe de carnet de voyage, très bien pensant, très premier degré, où voilà, on découvre l'humanité en changeant de pays, c'est toujours un peu ridicule. Et donc voilà, ici, c'est vraiment gag sur gag, c'est à mourir de rire. Le pitch est vraiment très drôle, parce que les 5-6 premières pages, on prend ça vraiment comme un carnet simple. Et puis voilà, on a une page Google où il tape dedans « truc sur le Pérou ». Et donc on comprend que ça va être du décalage total pendant tout le bouquin, et donc c'est vraiment très très drôle. C'est un petit bouquin pas trop cher. Moi, vraiment, je le conseille. C'est un excellent cadeau de fin d'année.
Alors, je vais ouvrir une petite page vie privée, scoop. Ce matin, j'étais à la Travel Clinic, parce que je vais bientôt voyager.
Je sens que ça va être croustillant.
Pour me faire des vaccins pour mes voyages lointains. Et il y avait un couple de jeunes qui revenaient visiblement d'un voyage au Pérou et qui avaient un poncho, un bonnet péruvien et une flûte de pan autour du cou, alors qu'ils avaient un accent ducle, quoi.
Ben voilà. Ils reprennent à peu près tous ces clichés-là, sauf qu'ils ne viennent pas ducle. Mais voilà, c'est dans cet esprit-là. C'est vraiment très très drôle, je vous le conseille.
Nicolas Clément,
oui,
ton coup de cœur.
Mon coup de cœur, un DVD qui devrait nous aider tous les deux à nous extraire de notre médiocrité, Myriam. À savoir le film Shokuzai du japonais. Moi, c'est souvent des japonais. C'est le problème d'Hitchcock finalement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de japonais. Donc, du japonais Kiyoshi Kurosawa. En fait, à la base, c'est une série télé en 5 épisodes qui est passé au Japon sur une chaîne qui s'appelle Wowow, qu'on connaît pas très bien ici, mais qui est une sorte de pendant asiatique du HBO américain, et qui était diffusé dans les salles chez nous cet été comme un film, en fait, de long de près de 5 heures. Et il sort aujourd'hui en DVD, redécoupé en 5 épisodes.
Comme ça, on peut faire pipi entre.
Voilà, on peut faire des pauses, on peut appuyer sur. Ouais. Et donc, ce film, parce qu'on va dire film finalement, ou cette série, en fait, en 2013, on s'en fout, un film ou une série, non. Enfin, je veux dire, ici, c'est à la fois une série et un film, ben voilà. Raconte l'histoire d'une gamine qui a été violée et assassinée.
Chouette!
Sous le regard, enfin, pratiquement sous le regard, en tout cas, de 4 copines de classe.
Et on va suivre en fait ces quatre filles devenues jeunes femmes 15 ans plus tard et essayer de comprendre comment elles peuvent vivre avec ce trauma et aussi une certaine culpabilité en fait par rapport à cet événement. Culpabilité qui est renforcée par la présence, le retour en tout cas ponctuel de la mère de la victime dans leur vie. La mère de la victime qui cherche toujours le responsable de la mort de sa fille, même 15 ans après. Ça peut sembler un peu tiré par les cheveux et en fait c'est très représentatif du cinéma. Makiyoshi Kurosawa, à savoir qu'on est à la fois dans le drame humain et à la fois dans le film de genre, donc c'est à la fois un drame, c'est à la fois un thriller, et la fin du film est vraiment assez géniale et vire même vers le cinéma fantastique.
Et tu peux me le prêter ?
En fait, c'est un... Oui, je vais te...
Tu l'as ici ?
Je ne l'ai pas ici, mais je vais te l'amener.
Non, c'est fort aimable.
Et donc voilà, c'est une sorte de grand film de fantômes sans fantômes, en fait. Je ne sais pas si ça peut dire quelque chose, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et c'est un des plus beaux films de l'année. Qui est en fait une série télé, à la base. Voilà.
Eh ben, c'est dingue. C'est dingue. Où en est-on en 2013 ?
Merci, Myriam.
Bon, Laurent... Tu as trouvé ton coup de cœur finalement.
J'ai trouvé mon coup de cœur. Je reviens plus sur le titre des disques, mais je me souviens.
Ah, mais écoute, j'ai internet et j'ai un très bon site qui s'appelle Google, je pense.
Non, mais en 2013, je trouve qu'il y a eu plein de très chouettes disques de hip-hop. Il n'y a pas eu forcément un gros chef-d'œuvre, je sais pas, comme l'an dernier par exemple, le Kendrick Lamar ou des trucs comme ça. Mais il y a vraiment eu une très chouette surprise et des très bons disques. Tout court, je trouve que le Kanye West par exemple reste une proposition intéressante, on va dire ça comme ça.
La sortie d'un très beau clip.
C'est un
clip
excellent. Ouais. Tout à fait.
Et c'est ça que tu...
Et ce n'est pas du tout ça. Non. Mais je veux parler d'un autre disque de hip-hop qui aurait pu aussi passer inaperçu comme ça et qui est un vrai plaisir, quoi. C'est un disque de Odyssey, qui est un rappeur.
O-D-D-I-S-2-E.
Qui était en concert récemment en Botanique et qui s'inspire complètement des un peu de l'esprit hip-hop des années 90 qui reste quand même toujours un peu l'époque dorée du rap US. En tout cas, une des époques où on a sorti un maximum de chefs-d'œuvre. Et donc, il s'inspire de cette époque-là, d'un esprit assez positif, d'un esprit assez dansant aussi.
Ah ouais.
Et par exemple, au Bota, il était avec tout un groupe. Généralement, les rappeurs avec un groupe, ça sert parfois un peu de prétexte pour montrer que, ouais, on fait quand même de la musique, même si on est des rappeurs. Ici, c'était pas juste qu'un prétexte, quoi. Il y avait vraiment un truc très organique, très funk, très soul. Et donc ce garçon a donc sorti un disque et même une mixtape instrumentale.
Et là pour l'instant je vois 6 disques et 23 000 mixtapes.
Et bien donc
sur sa page Wikipédia.
Tangible Dreams, je pense que c'est le nom de la mixtape qui est donc une mixtape.
Tout à fait, Tangible Dream.
Complètement instrumentale et qui est un vrai petit bijou de hip-hop instrumental, un peu nocturne comme ça, un peu planant sans être vaporeux. Et le disque qui l'accompagne, qui est un disque de hip-hop plus classique, reste un peu dans cet esprit-là très positif, enfin, pour ceux qui aiment Tribe Called Quest ou des groupes comme ça, ou De La Soul, ou toute cette vibe là.
Eh ben merci Lolo.
Voilà.
Oui, c'est dit bien. Avec tellement d'enthousiasme.
Écoute, ton service.
Bon, ben voilà, j'en ai fini avec vous pour aujourd'hui. Comme d'habitude, questions, suggestions, commentaires, insultes, demandes en épousailles sont plus que les bienvenues sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/focusstore. Pour le reste, n'oubliez pas de nous lire en version papier toutes les semaines avec le Vif Express. On se retrouve dans 2 semaines pour d'autres aventures autour de la culture. Merci les copains. À bientôt.
Salut.
Ciao.